Vous écoutez toujours Delirium Environnemental, le magazine radio d'information en environnement. La semaine dernière, donc, pour ceux qui nous écoutent sur le site Internet, la semaine du 21 septembre 2004, se tenait à Montréal le 3e Forum québécois sur l'énergie. Patrick Bonin, qui est en fait à ses heures un super-héros, mais aussi un reporter chevronné, est allé discuter avec M. Sam Ahmad, qui est ministre des Ressources naturelles, de la faune et des parcs, pour s'entretenir avec lui des questions d'énergie. On sait que ça occupe beaucoup l'espace public ces temps-ci. Donc, Patrick Bonin s'est entretenu avec lui. Dans un premier temps, on a séparé l'entrevue en deux parce que Patrick discute longtemps avec M. Ahmad. Et donc, dans la première partie, M. Ahmad nous parle un peu de sa vision du développement durable, des décisions qui ont cours présentement au gouvernement concernant les nouveaux projets, que ce soit Bécancour, le Suroît ou les autres. Il nous dit d'ailleurs qu'on doit être fier de nos réalisations. Donc, si vous voulez, on l'écoute tout de suite et au retour, on en reparlera plus amplement.
Monsieur Ahmad, bonjour. Merci.
Bonjour.
Je voudrais vérifier avec vous quelques clarifications concernant les axes du gouvernement. Vous parlez beaucoup de sécurité énergétique, création de richesses, développement économique et développement durable. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision du développement durable? Qu'est-ce que c'est exactement pour vous?
Pour moi, le développement durable, c'est utiliser les ressources d'un esprit de protection de l'environnement et d'un esprit avec une vision à long terme. Alors, les ressources sont limitées maintenant, aujourd'hui. Il faut les utiliser, mais il faut toujours penser à l'avenir et tout le temps en respectant l'environnement.
Donc, dans cette vision, comment s'inscrit dans la lignée du gouvernement l'annonce récente de la centrale thermique au gaz naturel de Bécancour? On sait que vous avez décidé de mettre de côté la centrale du Suroît, et Bécancour est quand même une centrale thermique au gaz naturel. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'idée du développement durable à travers cette centrale-là et la différence avec le Suroît pour vous?
Vous savez, d'abord, une petite correction, la centrale, c'est une centrale de cogénération. Et vous savez, le cogénération, on utilise deux sources d'énergie pour produire l'énergie, dans le fond. Et c'est une forme de recyclage aussi d'énergie ou de la biomasse. Ça, c'est très important. Deuxième chose, vous savez, avant, il faut s'assurer d'un minimum de plancher pour continuer au Québec. Le minimum de plancher, c'est notre sécurité énergétique. Il faut s'assurer d'avoir une sécurité énergétique. Nous avons pris la peine de donner le mandat à la Régie de l'énergie de nous faire le portrait global sur la sécurité énergétique au Québec. La Régie nous a recommandé fortement d'aller de l'avant avec ce dossier-là, parce que si on ne va pas de l'avant avec ce dossier-là, on peut risquer il y aura un risque en termes de sécurité énergétique. Nous, comme gouvernement, nous avons l'obligation des résultats pour s'assurer que tous les Québécois ont l'électricité, incluant nos entreprises. Alors ça, on ne peut pas jouer avec ça. Il faut, évidemment, nous avons des principes qu'on doit respecter, c'est-à-dire le développement durable, respect de l'environnement, les impacts, la réceptibilité par le milieu, etc. Pour nous, c'est des directives importantes, on va les respecter.
D'accord. Et en ce sens, le gouvernement, on attend des réponses à savoir quel est le plan d'action pour Kyoto, parce que là, on va avoir une augmentation des gaz à effet de serre avec cette centrale. On s'en va pas dans la bonne direction présentement au Québec. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui arrive au Québec? On commence à s'inquiéter justement en termes de résultats et qu'on attend du gouvernement.
Bien, en fait, là, vous inquiétez. D'abord, vous devrez être fier, en premier lieu, qu'au Québec, on a le taux d'émission de gaz à effet de serre le plus bas en Amérique du Nord.
Mais l'objectif, c'est quand même de réduire nos gaz à effet de serre par rapport à 90, sinon on s'en va dans l'autre sens.
Absolument. On s'en va pas dans l'autre sens, parce que chaque fois qu'on fait un projet hydroélectrique, c'est une réduction de gaz à effet de serre. Lorsque vous bâtissez un barrage et vous produisez l'électricité, vous allez économiser parce qu'il y a une autre centrale au charbon aux États-Unis qui aura pas sa naissance. Ça, c'est déjà une grande contribution. Il faut être fier de nos réalisations au Québec. Et j'ai toujours dit, et notre gouvernement a toujours dit, notre priorité, c'est l'hydroélectricité. C'est une des meilleures façons de réduire les gaz à effet de serre. C'est utiliser nos ressources naturelles renouvelables pour produire de l'énergie. Maintenant, comme j'ai dit, je suis très fier et c'est un acquis important. On va toujours essayer de le maintenir. Notre taux d'émission de gaz à effet de serre, 12, et la moyenne au Canada, c'est 24 tonnes par habitant. C'est le double.
Juste pour vérifier avec vous, il y avait un avis de la Régie. Dans l'avis de la Régie, on parlait de la création d'un groupe de travail, exactement sur le lien avec, entre autres, des experts d'Hydro-Québec. Ce groupe de travail, on le demandait d'ici la fin de l'été. Qu'est-ce qui arrive exactement à ce niveau-là?
Il va bientôt avoir un appel d'offres pour avoir l'expertise des gens, pour établir la vraie façon de faire, c'est-à-dire de travailler sur le potentiel hydroélectrique au Québec, le potentiel éolien au Québec, et vraiment savoir exactement où sont. avoir l'étude pour ça. Là.
Donc, ça devrait arriver avant la prochaine commission parlementaire.
Ça va être pendant la commission parlementaire qu'on va avoir des échos puis des résultats.
D'accord. Et juste une autre chose qu'on mentionnait dans le rapport de la Régie, que le gouvernement devait s'assurer des fonds nécessaires pour l'Agence d'efficacité énergétique. Donc, le Québec devait faire une priorité de l'efficacité énergétique. Et est-ce qu'il y a eu des développements au niveau de ces fonds-là et quelle est l'ampleur de ces fonds-là?
D'abord, c'est une priorité parce qu'on a déjà annoncé un objectif de 2,4 TWh Hydro-Québec en termes d'efficacité énergétique par rapport à son plan de 0,75. Alors, vous comprendrez bien, c'est à peu près trois fois, à peu près, là, 2 points quelques de ce que l'Hydro-Québec visait. Ça, c'est un objectif majeur et important. Deuxième chose, on s'en vient après la commission parlementaire pour un plan d'efficacité énergétique important. Donc, ça va donner un nouveau rôle à l'Agence d'efficacité énergétique et aussi, évidemment, dans sensibilisation puis l'implication de plus, l'implication aussi de d'autres partenaires dans ce domaine-là.
Donc, on comprend que malgré le fait que l'avis de la Régie disait de mettre en œuvre un plan et justement d'assurer les fonds nécessaires à l'agence, il n'y a pas nécessairement de changement à ce niveau pour l'instant. Vous allez encore attendre un petit peu.
Non, c'est pas. En fait, l'agence est à rôle. Ils vont s'en venir avec un plan stratégique qui va suivre notre stratégie énergétique au Québec. Alors, tout en marche. Et c'est pas nécessairement que le gouvernement va mettre tous les fonds. Il y a un partenariat public-privé qu'on va faire et ce partenariat-là permet à la Régie de jouer son rôle. Deuxième élément, j'ai demandé de tripler le budget de l'agence en termes de sensibilisation pour la consommation énergétique pour les gens qui ont un faible revenu. Ça, c'est une première au Québec. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, on va chez les gens qui ont des appartements et on essaie de les sensibiliser sur la consommation énergétique. On essaie aussi de les aider à savoir s'ils ont des problèmes de fuite, par exemple, etc. Donc ça, tout ça, là, on va tripler le budget et on va augmenter le nombre de visites, le nombre de sensibilisations puis par le fait même, les gens qui seront touchés par ça.
Intéressant. Par contre, juste pour mettre en perspective, de quoi tripler, ça donne un budget environ, une augmentation, on arrive à 6 millions plus ou moins.
On parle de quelques millions.
Là, de quelques millions.
Pour sensibiliser les gens à faible revenu dans ce domaine-là. C'est déjà pas mal pour commencer.
Non, évidemment, ça semble gros, mais lorsqu'on compare, par exemple, 3,5 milliards par année d'investissement Hydro-Québec dans l'hydroélectrique, qui a déjà pris beaucoup de place au Québec et qu'on est en train quand même d'arnacher beaucoup de rivières avec des impacts, il y a une façon d'aller chercher des mégawatts en investissant davantage dans l'Agence d'efficacité énergétique.
Oui. Pour moi, j'ai dit l'efficacité énergétique devient une filière. Pour ça, on a fixé un objectif de 2,4 TWh. Qu'est-ce que c'est, 2,4 TWh? Ça peut être le tiers de SM3. Le barrage de SM3, le tiers de la capacité, on va essayer d'établir par l'efficacité énergétique 2,4. C'est un début. On va augmenter, mais on va aller aux mesures où c'est faisable. Puis le 2,4, ça correspond à des coûts en centaines de millions. Parce que pour aller chercher le 2,4 TWh, il faut investir. Mais ça, c'est des centaines de millions de dollars qui vont être investis pour aller chercher le 2,4 TWh. C'est des centaines de millions qui vont être investis. C'est beaucoup d'argent.
Donc là, on parle au niveau technique, mais éducation et sensibilisation, vous croyez que c'est suffisant, quelques millions de dollars pour changer la mentalité des Québécois qui sont parmi les plus gros consommateurs énergivores au monde?
Ça sera jamais suffisant parce que vous savez, d'abord, c'est une mentalité bâtie depuis longtemps. Juste voir pendant la période de Noël, etc., toutes les décorations, les lumières et tout ça. Alors, il y a plein de pratiques qu'on a ici au Québec qui ne sont pas ailleurs et sont vraiment des... on consomme beaucoup. Mais pour ça, il faut travailler fort puis il faut fixer des objectifs et aller graduellement pour sensibiliser tout le monde ensemble et aussi les grands consommateurs. Ça sera pas une tâche facile, mais il faut commencer quelque part par fixer des objectifs et essayer de les atteindre. Puis une fois qu'on les atteint, on les augmente puis on continue.
Je me souviens de rien pantoute, j'ai même oublié ma nationalité. Où est passée notre fierté? Notre front parlé se fait angliciser. On a vendu notre tablier, on a l'air d'un troupeau de brebis égarées. Mauvais berger, mouton mal aimé, mieux vaut être seul.
vous écoutez toujours Delirium environnemental et tout particulièrement, vous écoutez toujours les réponses que M. Sam Ahmad, ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec, a données à Patrick Bonin lors du 3e Forum québécois sur l'énergie qui se tenait la semaine passée à Montréal.
Juste pour revenir sur l'éolien, l'avis de la régie parle encore, on visait un 2 à 3000 mégawatts au Québec d'éolien. Il y a eu une nouvelle annonce d'un nouveau 1000 mégawatts. Ça fait un total, grosso modo, de 2000 qu'on aurait au Québec. Avec justement les résultats suite à l'appel d'offres qu'on a eu, 3000 mégawatts qu'on pourrait mettre en œuvre d'ici 2008 seulement en Gaspésie. On parle même de 4000 d'ici 2011-2012. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour lancer un autre appel d'offres dans l'éolien?
Bon, d'abord, juste quelques corrections de l'information. On a un appel d'offres de 1000 éoliens. Mm-hmm. Et là, les offres sont rentrées. Il correspond à 4000, mais composé. Ce n'est pas une capacité de 4000. C'est que vous avez, mettons, 5-6 fournisseurs qui ont fourni des offres. Si on les cumule, ça donne 4000. Mais la capacité actuellement, c'est 1000. Et nous avons demandé, d'ailleurs, déjà à Hydro-Québec d'un autre 1000 additionnel. Donc, on est rendu à 2000. Mais si vous tenez compte aussi ce qui existe, comme CAPTCHA, comme d'autres projets actuellement, on est à 2300 à peu près. OK? C'est pas mal, là. Ça s'en vient. Ça, c'est 2300 actuellement en cours. Là. OK?
L'Allemagne est à 15 000 quand même.
Combien la production de l'Allemagne? Vous savez combien ça correspond de leur portefeuille énergétique?
En pourcentage? Bonne question.
Oui, c'est entre 1 et 2 %. OK? On est rendu à 2 % nous autres. Parce qu'il faut mettre dans l'échelle. Toujours. Puis en Allemagne, ils font quoi? Du charbon. OK? Ils font pas beaucoup d'hydroélectricité. En Allemagne, c'est plus polluant que nous autres. Puis le taux d'émission de gaz à effet de serre en Allemagne, c'est beaucoup plus élevé que nous autres. Il faut faire attention avec les pourcentages. Donc,
mais ils ont eu quand même, eux, l'audace d'y aller. Ils sont rendus à 15 000 MW dans l'énergie de l'avenir, on s'entend?
Mais ils sont à 1 à 2 % de leur portefeuille. Nous sommes déjà à 2 % atteints dans notre portefeuille. Nous sommes en avance et nous serons plus encore. On va développer. On va développer, mais vous pouvez pas tout mettre ça avance comme ça rapidement. Il faut vraiment aller pas par pas. Deuxième élément qui est majeur, c'est la clé où il est le vrai potentiel. Il y a des études de vent qui étaient faites, c'est disponible, mais maintenant, le potentiel, vous le savez, il faut relier ça aux lignes de transport, il faut relier ça aux réservoirs aussi. Et ça, c'est la combinaison de succès pour implanter. Demain matin, si vous nous dites on va l'implanter, oui, on le veut, mais où la question? Et c'est ça qu'on veut établir dans les prochains mois pour vraiment statuer là-dessus et permettre à l'industrie après de se développer.
On a déjà eu des études quand même. Elimax qui a fait une étude disant, chiffrant à 100 000 MW le potentiel au sud du 53e parallèle à moins de 25 km des lignes de haute tension.
Regardez là, c'est qu'on peut dire on a 100 ou 200 ou 300 000, mais si vous êtes loin de il y a la faisabilité économique. Il y a la faisabilité économique qui est très importante. Parce que si vous mettez des éoliens loin des lignes de transport, vous êtes obligé de payer 500, 600 millions pour faire des lignes de transport. C'est là, vous êtes dans un esprit là, qu'on n'est plus là. Donc, il faut vraiment dire où il est la bonne place pour le faire. Déjà, 1000 MW de plus là, lancés, là, on a une bonne volonté quand même. Il faut l'apprécier. On est rendu à 2000 quelques cent MW. Là, c'est beaucoup là, dans un court terme. On veut développer à long terme.
Oui, pardon.
Il faut faire attention parce que si tu vas trop vite dans quelque chose que t'as pas, tu ne sais pas où tu t'en vas, tu vas payer tes erreurs après.
Et en ce sens, vous voyez pas, là on parle de gros investissements Hydro-Québec, 3,5 milliards. On parle encore de l'hydroélectrique, on a le syndrome du castor au Québec, on veut construire beaucoup de barrages, qui a fait quand même quelque chose de très bien au Québec dans les années 70. À l'époque ici, 2004, on parle, le panel énergétique a changé. Est-ce que de ces 3,5 milliards-là, on devrait pas investir davantage dans l'éolien? Hydro-Québec qui ne fait pas d'éolien, qui fait juste des appels d'offres pour l'éolien, est-ce que c'est pas une filière d'avenir pour une société d'État à long terme, voire devenir des experts de l'hydroélectrique et de l'éolien au Québec?
L'hydroélectricité, c'est une source d'énergie renouvelable. C'est une source qui n'est pas polluante. C'est une source, bien sûr, c'est démontré, c'est reconnu mondialement.
En fait, lorsqu'on parle de pollution, évidemment, il y a un changement de tout l'écosystème. Le système hydrique a été changé, il y a du mercure avec ça. Il y a également des émissions de gaz à effet de serre qui sont moindres. Mais polluant, il y a quand même, c'est pas l'énergie propre, selon le terme.
Vous êtes en train de me dire que l'hydroélectricité est plus polluant que le charbon puis le gaz naturel.
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Est-ce que, en termes de défis, par exemple, sur l'environnement, d'eau, l'hydroélectricité, c'est notre source principale. C'est comme le pétrole pour l'Alberta. On peut pas négliger ça. C'est majeur, puis c'est pas encore exploité à plein régime. Mais, quand même, comme gouvernement responsable, on dit qu'on veut diversifier. L'éolien, c'est une source de diversification. On va regarder les autres sources aussi. Puis on veut aller de l'avant. Mais il faut faire attention, parce qu'il y a l'acceptabilité du milieu aussi qu'il faut faire attention. Parce que demain matin, mettre toutes ces ces poteaux-là en face, je suis pas sûr que tout le monde va le prendre facilement. Donc, il faut aller vraiment pas par pas, sensibiliser les gens, avoir l'acceptabilité puis développer.
Donc, l'éolien, pas d'éolien pour Hydro-Québec, juste des soumissions, encore une fois, des appels d'offres, en fait.
Ben, en fait, c'est les moyens, ça. C'est une question de moyens, de laisser les entreprises qui connaissent ça, parce que c'est une expertise éolien, hein. C'est pas seulement mesure de vent, c'est les équipements. Et vous savez, cette technologie-là est en développement continu. On regarde les palmes aujourd'hui qu'on utilise par rapport à CAPTCHA. Il y a une différence importante en termes de technologie. Il y a l'efficacité de la technologie. Avant, il y a pas longtemps, était 15%. Là, on parle de 25. Alors, il y a une évolution dans ce domaine-là. Ce qui est important, c'est faire aussi les choses puis développer par d'autres. Pourquoi pas bâtir une expertise québécoise, amener la technologie, la faire construire ici puis développer les emplois. C'est ça qui est important au bout de ligne, là.
Beaucoup d'emplois reliés à l'efficacité énergétique, entre autres. En terminant rapidement, comme ça, on parle d'hydrocarbures au Québec, de gaz et de pétrole, entre autres, dans le Saint-Laurent. Est-ce que, en tant que ministre des Ressources naturelles, évidemment, vous êtes intéressé à ça? L'impact environnemental pour vous, est-ce que vous ne voyez pas qu'on s'en va encore une fois dans la mauvaise direction, entre autres, en termes de Kyoto et en termes de richesse de cet écosystème-là et des risques reliés au pétrole?
Trois critères pour chaque projet à développer. Respect de l'environnement, acceptabilité du milieu, impact économique. C'est toujours notre guide dans tous les projets qu'on fait. D'ailleurs, vous le savez, dans les mesures qu'on fait dans le fleuve Saint-Laurent, nous avons arrêté les travaux. On a demandé une audience, une étude d'experts. On a reçu rapport d'experts. On fait maintenant une étude environnementale pour avoir des résultats de ça. Donc, on respecte les démarches. Puis, c'est toujours ça, le développement durable. C'est développer nos ressources dans le respect de l'environnement. C'est développement. On appelle ça développement. On ne dit pas que d'une stagnation, là. On parle de développement durable. Alors, le développement, ça veut dire action, développement de ressources, utilisation de nos ressources dans un esprit à lointain. C'est ça qui est important. Pour ça, on l'appelle développement. Sinon, on l'a appelé ça autrement, hein?
On parlera pas des mini-barrages, malheureusement, parce qu'on n'a pas le temps. Peut-être juste un petit mot sur on a une centrale nucléaire au Québec qui risque d'avoir besoin d'être réparée, ou plutôt, du moins, on risque de la fermer ou de continuer avec. Quelle est votre position par rapport au nucléaire?
Bien, j'ai pas de position. On attend les études pour montrer quel est l'impact, comment ça va se passer, quel coût, à quel prix, dans un esprit de sécurité énergétique, de coût, respect de l'environnement, le milieu, etc. Donc, il y a pas de décision prise à ce niveau-là encore.
Monsieur Samahad, ministre des Ressources naturelles, merci beaucoup.
Merci, merci.
Retour à Delirium environnemental, comme je vous le disais un peu plus tôt, c'était donc M. Sam Ahmad qu'on vient d'entendre, M. Sam Ahmad qui est ministre des Ressources naturelles, de la faune et des parcs, et donc c'est Patrick Bonin qui l'interviewait la semaine passée lors du 3e Forum québécois sur l'énergie qui se tenait ici même à Montréal. On se permet d'être peut-être un peu, pas irrévérencieux, c'est pas du tout le mot, mais comme c'est une entrevue qui a été faite la semaine passée, on a eu le temps de l'écouter. Et messieurs, vous vouliez prendre le temps de faire quelques précisions, quelques clarifications sur les propos qui ont été tenus par M. Sam Ahmad. Peut-être donner d'abord la parole à Patrick Bonin, comme c'est lui qui l'a interviewé. Patrick?
Bien, je pense que d'entre les deux, c'est important de faire, en fait, on m'a corrigé en disant que lorsque je comparais le Suroît à la centrale de Bécancour, M. Ahmad disait que la centrale de Bécancour, c'est une centrale de cogénération. Il a tout à fait raison. C'est une centrale de production simultanée d'énergie électrique et d'énergie thermique. Par contre, le Bureau d'audience publique en environnement a justement dit que la Commission constate qu'en dépit d'un recours à la cogénération, le taux d'émission net de gaz à effet de serre de la centrale proposée, soit la centrale de Bécancour, ne diffère sensiblement pas de celui du projet de centrale de gaz thermique au Suroît. Donc, dans le fond, ce qu'on nous dit, c'est que c'est exactement la même chose. La différence entre le Suroît, c'était 51% de rendement. Donc, pour l'énergie, pour le gaz qu'on brûle, on obtient 50% de rendement, plus ou moins. Et Bécancour, on parle de 60%. Donc, il n'y a pas énormément de différence à ce niveau-là. Et on nous fait croire présentement que c'est pas une centrale thermique au gaz naturel, mais c'en est une. Et en plus, on est capable d'avoir des taux de rendement de 75%. Les industriels sont capables de faire des centrales de 75%. Puis là, on a laissé passer, on a accepté qu'on ait une centrale thermique au gaz naturel au Québec avec un taux de 60%. Tout ça dans l'idée, en plus, que cette centrale-là va apporter une augmentation des émissions de gaz à effet de serre au Québec de 1,7%. 1,7%, ça a l'air de pratiquement rien, mais si on compare, par par exemple, entre 90 et 2000, au Québec, ça a augmenté de 2,3%. Et je vous rappelle qu'un des objectifs du protocole de Kyoto, c'est justement de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à 90, les diminuer de 6%. Donc là, ce qu'on fait avec cette centrale-là, c'est qu'on les augmente et on parle de beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaz naturel qui va être brûlé. On parle de 920 millions de mètres cubes de gaz naturel qui va être brûlé. Et ça, je vous rappelle que ça pousse pas dans les arbres.
C'est intéressant de voir la position de M. Hamad sur justement l'utilisation du gaz naturel en disant qu'on va pas dans la mauvaise direction. On considère vraiment la filière thermique comme la solution d'avenir, puisqu'on se compare souvent aux centrales au charbon des États-Unis et puis l'Ontario. Un petit peu inquiétant. Est-ce que moi, ce qui m'a frappé dans cette entrevue-là, bon, je pense que M. Hamad montre une bonne ouverture, une excellente entrevue selon moi. On étudie deux points positifs, deux points négatifs. Positif étant l'éolien et l'efficacité énergétique. Montre une certaine ouverture. Je trouve qu'il est très timide. Ça serait intéressant d'avoir un ministre qui a un petit peu plus de vision par rapport à ça. Mais lorsqu'on tombe dans les dossiers négatifs, c'est-à-dire l'exploitation du gaz dans le fleuve Saint-Laurent, je veux dire, la rhétorique du développement durable est tellement exploitée et surexploitée de plus en plus qu'on est en train de perdre justement la notion du développement durable à la base. Comment qu'on peut considérer que l'exploitation dans le fleuve, l'exploitation du gaz dans le fleuve est un projet qui respecte l'environnement? Je trouve ça un petit peu désastreux de ce point de vue-là.
Ben, c'est comme Shell qui fait du développement durable, comme Domtar qui font du développement durable. Le gouvernement du Québec va se déclarer qu'il fait du développement durable en allant faire de l'exploration gazière. Si ça passe au bureau d'audience publique en environnement, si les ministres l'acceptent, on verra qu'est-ce qui va arriver, c'est pas certain. Définitivement, important de mentionner justement l'ouverture sur l'éolien. On voit que l'efficacité énergétique également arrive dans le discours. C'est intéressant, c'est un début. Je vous rappelle qu'il y a une grosse commission parlementaire qui va avoir lieu à l'automne sur l'énergie au Québec. On va refaire le même exercice qu'on a fait en 96, ce qui a donné justement lieu à une politique énergétique en 96 qui n'est pas appliquée malheureusement. Et triste de savoir qu'Hydro-Québec, encore une fois, se refuse de se lancer dans l'éolien, qu'on va encore faire ça avec du partenariat public-privé, on va encore faire des soumissions et laisser ça au privé au lieu de développer une expertise, avoir un projet de société et l'exporter partout.
Et c'est déjà ce qui complète Delirium environnemental pour cette semaine. On se finit la partie avec, comme d'habitude, coup de cœur, coup de masse et au calendrier cette semaine, messieurs.
Et je me lance avec un très gros coup de masse aux pages jaunes de Montréal et aux super pages. La compétition entre pages jaunes et super pages qui lessive les forêts du monde pour qu'on ait accès à deux sortes de pages jaunes qui sont exactement la même affaire. Est-ce qu'on peut s'entendre, s'il vous plaît, pour avoir rien qu'une sorte de page jaune puis qu'on n'ait pas deux pages jaunes chez nous?
On peut-tu s'entendre que si on n'a pas besoin de pages jaunes, livrez-nous-en pas, puis si on en veut, on va vous appeler pour s'en faire livrer.
Et je vous informe que le site internet www.pagejaune.ca.
Bon, ben moi, je vais vous parler de Petro-Canada. On en a parlé un petit peu. Ben, Petro-Canada, vous savez qu'on a vendu nos actions. Le gouvernement fédéral a vendu ses actions. C'est un peu triste de voir. En fait, c'est un coup de masse parce que je trouve ça vraiment que ça n'a pas de place. On vend des actions d'une pire compagnie, puis on met même pas tout l'argent de profit dans un fonds environnemental. Et pire encore, on se promène sur la 40 plein métropolitain sur Montréal et on voit Petro-Canada avec son grosse annonce ISO 14001 et ça dit « L'environnement, c'est notre engagement ».
Ouh!
Hey, c'est tout. Hey, Petro-Canada, ça c'est vrai. Ouais,
moi, j'aimerais envoyer un beau gros coup de cœur à l'Espagne. Vous savez que lors de la journée en ville sans ma voiture, la semaine passée, il y a près de 1500 villes dans le monde, dans une quarantaine de pays qui ont participé. Eh bien, imaginez-vous donc que 450 de ces 1500 villes-là étaient en Espagne. Beau travail, les amis.
Un gros coup de masse à toutes les compagnies qui osent louer les camions qui se promènent en ville pour faire de la publicité, puis faire rouler leur gros V8, puis faire de la belle pollution juste pour nous accaparer l'environnement visuel de nos rues. Ça n'a pas de maudit bon sens, arrêtez-moi ça tout de suite.
Moi, j'aimerais vous dire, c'est ni un coup de cœur, ni un coup de masse, mais le site Internet d'Hydro-Québec est en première position mondiale parmi plus de 170 entreprises. Donc, pour la qualité du site Internet, en allant voir ça de visu, j'ai vu qu'il était très facile d'avoir un diagnostic résidentiel pour mieux consommer, pour obtenir en un instant des conseils personnalisés, en vue d'économiser l'énergie. Donc, comme on le dit souvent, ça change tous les jours qu'on change le monde. Donc, commencez par bien isoler vos maisons pour cet hiver. Et le site d'Hydro-Québec peut vous y aider.
justement, par rapport à ça, une petite solution, truc de la semaine. Vous savez, vous pouvez ouvrir les deux petites trappes qu'il y a sur votre chauffe-eau et puis réduire la température de votre chauffe-eau pour diminuer jusqu'à 25% l'utilisation d'énergie par année.
Oh,
on parle d'une économie de 30 à 35 extrêmement intéressant. Réduire vos gaz à effet de serre.
Ben, moi, je continue dans les trucs. Un petit coup de cœur à tous ceux qui s'inscrivent sur leur porte. Pas de pub, pas de publicité. Ça vous évite d'avoir les sacrés publicsacs que personne lit. C'est quelque chose comme 40 kg de pub par année que vous nous évitez à vous et que vous, en fait, vous aidez l'environnement à ce niveau-là. Bravo.
Je me permets de vous dire que le programme d'agriculture soutenu par la communauté, donc le programme d'Équitaire, les inscriptions pour l'hiver 2004 sont commencées. Donc, pour ceux qui veulent s'y inscrire, vous avez qu'à aller sur équitaire.org.
Moi, j'aimerais envoyer un petit coup de cœur, en fait, à un certain monsieur Russell Train, qui est l'ancien directeur de l'Agence de protection de l'environnement sous Nixon. Alors, un républicain qui, lui, est en train de dire non, vraiment, sérieusement, l'administration Bush est complètement anti-environnementale, ce qui fait qu'il vient de procéder à un virage et il invite beaucoup de républicains à faire la même chose que lui.
Et c'est ce qui fait le tour déjà, 1h30, ça passe tellement vite. Vous avez donc écouté Delirium environnemental. Je vous rappelle que vous pouvez trouver une multitude d'informations sur notre site internet au www.radiodelirium.net. Je m'excuse, Delirium environnemental, c'est d'abord l'équipe, donc Patrick Bonin, Nicolas Mainville, Hugo Lachapelle, concepteur du site internet Étienne Côté-Paluc. Moi, c'était Sofiane Lejean. La semaine prochaine, on retrouve Nicolas Milo, aussi membre de l'équipe de Delirium. Beaucoup de plaisir, messieurs, encore une fois cette semaine.
Merci, Sofiane.
Ça n'appelait pas un merci, je vous parlais des choses de l'environnement.
Ah, c'est vrai que c'est la journée mondiale de la mer. En
non,
fait, c'était hier.
Maman ou la mère salée?
La mer.